un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Des mesures plus restrictives en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône pour enrayer la progression du coronavirus. Baisse de la jauge pour les rassemblements, journée du patrimoine annulée à Bordeaux, fête dansante interdite dans les bars. Nous faisons le point dans un instant avec Wafia Kenich. Le tribunal de commerce de Marseille valide l'offre de reprise du groupe Alinéa par ses actionnaires. 992 emplois devraient être supprimés. Anne-Laure Jumet nous expliquera cette décision. Le président chinois rencontre à distance les représentants de l'Union européenne pour avancer dans les négociations sur les investissements et le commerce. Nous joindrons notre correspondante à Bruxelles, Angélique Boin. L'état de l'opposant russe Alexei Navalny s'améliore. Berlin et Paris réclament à nouveau des éclaircissements sur son empoisonnement à Vladimir Poutine. Le président russe répète que les accusations envers son pays sont non étayées. Analyse de Bertrand Galichet. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à des mois d'octobre et de novembre plus durs et il est illusoire de penser, souligne l'OMS, que la mise au point d'un vaccin coïncidera avec la fin de l'épidémie de Covid-19. Alors que la pandémie a fait près de 925 000 morts dans le monde, alors qu'Israël s'apprête à se reconfiner pour 3 semaines, les mesures sont également renforcées en France dans les zones les plus touchées. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir.
La préfète de Gironde a annoncé une série de mesures en début d'après-midi, avec notamment des rassemblements limités à 10 personnes.
Absolument. Interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes sur les quais, dans les parcs de Bordeaux. Les soirées dansantes dans les bars et les restaurants ou les salles des fêtes sont prohibées. On passe de 5 à 1000 personnes pour les rassemblements dans les lieux publics. Les événements comme les brocantes ou les fêtes foraines ne sont plus autorisés. Les manifs revendicatives seront interdites si, je cite la préfecture, elles ne respectent pas des mesures sanitaires strictes. Fermeture administrative quasiment immédiate des bars et des restaurants qui enfreindraient ces mêmes règles. Du côté des entreprises, c'est retour à la case télétravail dès que cela est possible et les sorties scolaires sont-elles supprimées. Le mot reconfinement n'a jamais été prononcé, l'État préfère parler d'un plan d'action territorialisé, une stratégie pour casser la circulation du virus, car tous les signaux sont au rouge au CHU de Bordeaux, comme l'a dit son directeur Yann Bubien. 100 patients hospitalisés pour Covid en 24 en réanimation, 57 clusters identifiés, dont 15 en EHPAD sur la Gironde, des chiffres qui augmentent de jour en jour. Actuellement, il y a 180 lits disponibles en réanimation au CHU de Bordeaux, une offre qui pourrait passer à 300 lits pour absorber l'aggravation si elle a lieu. Stopper l'épidémie, cela passe aussi par la prévention. Il faut, annonce la préfecture, renforcer l'offre de tests. Sauf que les lieux de tests sont saturés, ainsi que les laboratoires d'analyse. Il va donc falloir faire des choix. Malades, cas suspects, cas à risque et personnel de santé seront donc prioritaires. La préfète a également annoncé l'ouverture de nouveaux lieux de dépistage la semaine prochaine. En EHPAD, les autorités préconisent l'isolement de tous les résidents malades et la limitation des visites à 2 par semaine et par résident. Enfin, le volet verbalisation pour absence de port du masque, des gendarmes et des CRS doivent arriver en Gironde pour augmenter les contrôles, notamment aux abords des établissements scolaires.
Et dans les Bouches-du-Rhône, Wafia, là aussi, des mesures viennent d'être annoncées.
Absolument, par Christophe Mirmand, le préfet du département, qui a donc annoncé des mesures pour enrayer l'épidémie. Alors, le port du masque obligatoire de 6h à 2h dans 27 communes, annulation des manifestations de grande ampleur, pas plus de 1000 personnes dans les salles de spectacle, sur la plage et dans les parcs, le stationnement statique de plus de 10 personnes est désormais interdit. Mais on ne reparle toujours pas de reconfinement, en tout cas, pas pour le moment.
On attend aussi un durcissement des mesures en Guadeloupe. Signalons qu'à Strasbourg, l'arrêté imposant le port du masque est de nouveau retoqué par le tribunal administratif. Une école d'ingénieurs de l'université de Strasbourg a dû être fermée aujourd'hui. Une cinquantaine d'étudiants avaient été testés positifs au coronavirus. À Rennes, 43 cas de Covid-19 ont été confirmés chez des étudiants en médecine, pharmacie et odontologie. La faculté de médecine suspend donc ses cours en présentiel durant 7 jours pour les étudiants de 2e et 3e année de médecine. Alors que la majorité des étudiants n'ont pas encore repris les cours, plus d'une dizaine de clusters ont déjà été identifiés dans l'enseignement supérieur avec des contaminations liées dédiée majoritairement à des soirées privées. C'est ce qui a poussé la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, à rappeler la nécessité de respecter les gestes barrières. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Ali Kiefer.
Les syndicats d'étudiants ont été reçus au ministère cet après-midi et ils ont été invités à relayer un message de vigilance.
Oui, pour l'instant, pour le ministère de l'Enseignement supérieur, pas question de fermer totalement les universités. Le but est de privilégier les cours en présentiel. En revanche, les groupes d'étudiants contaminés ou cas contact lors de soirées étudiantes, comme à Nantes et Rennes, devront rester chez eux à l'isolement et suivre des cours en ligne pendant une à deux semaines en fonction des établissements. Pour Mariam Poujoutou, vice-présidente de l'UNEF, il ne faut pas stigmatiser tous les étudiants mais donner plus de moyens.
Il y a des masques gratuits qui puissent être fournis, faciliter l'accès aux jeunes qui sont de la santé. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui ne se soignent pas parce qu'ils sont en situation de précarité. Aujourd'hui, on a des rentrées qui sont assez hétérogènes sur le territoire en fonction des moyens qu'ont ou pas les établissements. Donc c'est plutôt ces éléments-là que nous, on met en avant, plutôt que les soirées qui restent pour nous quand même assez infantilisant de réduire les clusters aux soirées étudiantes.
Des moyens supplémentaires pour faire face à la crise sanitaire que demandent aussi les syndicats d'enseignants et la CPU, la conférence des présidents d'université, qui rappelle que les cours en ligne ne sont pas forcément source d'économie pour les universités. En attendant, Frédéric Vidal, qui doit faire sa conférence de presse de rentrée demain, devrait faire de nouvelles annonces au niveau sanitaire, notamment sur les tests et les gestes barrières.
Hakim Kasmi, en Italie, la majeure partie des établissements scolaires ont rouvert aujourd'hui. 5,6 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Le sud du pays, lui, ne rentrera qu'à la fin du mois. Et 6 mois après la fermeture totale, cette rentrée est plutôt chaotique, malgré les investissements et les encouragements du gouvernement. À Rome, par exemple, 30% des écoles n'ouvrent pas leurs portes. Et ça a été souvent le système D, Bruce de Galzin.
Sans les parents, la rentrée ne se serait pas si bien passée dans cette petite école primaire, selon Chiara, qui accompagne ses deux enfants de 7 et 6 ans avec Riccardo, son mari, mais lui est plus remonté.
Il y a eu des retards importants, des dépenses inutiles comme les pupitres individuels, et beaucoup de choses ont été prises en considération au dernier moment. Aujourd'hui encore, de nombreux enseignants n'ont pas été recrutés. Pour notre aîné, par exemple, nous n'avons pas de professeur de mathématiques. Nous l'avons su il y a deux semaines.
Mais la plupart des parents font confiance à leur école qui a dû se débrouiller pour ouvrir dans les temps et même sans pupitre individuel. Car selon Georgia, les enseignants savent faire.
On a même dit aux maîtresses d'utiliser l'argent des pupitres individuels pour autre chose. Parce qu'elles ont trouvé de bonnes solutions pour maintenir la distance. Ça va plaire et même stimuler les enfants de primaire. Les tables sont installées en zigzag.
Les élèves ont déjà adopté les gestes barrières. Ils se saluent avec le coude, avec le pied. Et tous portent un masque dès 6 ans, fourni par les parents. Car les 11 millions de masques quotidiens et gratuits promis par l'État ne sont pas encore arrivés en quantité suffisante. Mais Georgia est rassurée, confiante et même libérée.
C'est vraiment un moment fort. Bizarre qu'on ne boive pas du champagne à la place du café.
Mais l'école sera de nouveau fermée en début de semaine prochaine car les Italiens votent partout dans le pays.
Bruce de Galzin à Rome pour France Culture. Il faut y aller, dit Jean Castex. Le Premier ministre exhorte les entreprises à signer massivement des accords de réduction de l'activité. Le chef du gouvernement insiste sur l'importance de la préservation de l'emploi et des compétences, objectif premier du plan de relance gouvernemental. Mais tout cela ne fonctionnera qu'à une seule et unique condition, votre totale mobilisation, déclare Jean Castex aux entreprises. L'enseigne d'ameublement Alinéa va être partiellement reprise par ses actionnaires. Le tribunal de commerce de Marseille a validé l'offre de la famille Mullier. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Il y aura tout de même 992 licenciements.
Oui, puisque 16 magasins vont fermer sur 26. 9 sont repris par la famille Mullier et un autre, le magasin de Poitiers, est racheté par le groupe Jiffy. Cette issue était prévisible puisqu'il n'y avait sur la table que l'offre de reprise des actionnaires d'Alinéa. Le tribunal a donc choisi la solution qui préservait l'emploi, mais pour l'avocate des salariés, maître Campagnolo, le groupe aurait pu éviter cette situation.
Si la famille Mullier avait mis en œuvre en amont plus tôt des mesures de réorganisation, la casse sociale serait sans commune mesure. On a une attitude jusqu'au boutiste, avec un désengagement brutal et définitif, et puis finalement, on sort par la grande porte et on revient par la petite fenêtre. Et on reprend ce qui est intéressant pour retenter une nouvelle fois l'aventure Alinéa.
Car pour les syndicats d'Alinéa, la direction de l'enseigne a profité de l'assouplissement des règles pendant l'état d'urgence sanitaire pour reprendre l'entreprise en lui imposant au passage une sévère cure d'amaigrissement. Un effet d'aubaine donc, ce que dément totalement son dirigeant Alexis Mullier.
Alinéa était bien entendu une entreprise extrêmement fragile, en perte depuis de nombreuses années. pour laquelle les actionnaires n'ont jamais manqué dans leur soutien, avec sur ces 10 années cumulées pas loin de 300 millions d'euros d'apport à Alinéa. Cette crise du Covid, je rappelle quand même qu'on a fermé les magasins pendant 2 mois et qu'on était dans une incertitude la plus totale sur le déconfinement au moment de cette procédure. Donc non, je cherche encore l'effet d'aubaine.
Alexis Mudy a désormais comme projet pour l'enseigne d'accroître son développement sur Internet, de développer les franchises et de s'implanter en centre-ville. En parallèle, des reclassements sont proposés aux salariés des magasins fermés, notamment chez Auchan. 750 postes en CDI, assure à l'instant la famille Mullier. Mais pour les syndicats, les emplois proposés ne sont pas toujours en adéquation avec les compétences des salariés d'Alinéa.
Anne-Laure Jumet, les éditions Viviane Ami deviennent une filiale de Flammarion. Après plusieurs années de difficultés économiques, Viviane Ami, qui avait fondé cette maison d'édition il y a 30 ans, recherchait un repreneur. Elle s'est donc finalement rapprochée du groupe Madrigal, maison mère de Flammarion et Gallimard. Le Monde a publié ce matin son baromètre annuel des fractures françaises. Indicateur un peu large des opinions de la population, il pointe des phénomènes connus, comme la défiance à l'égard des dirigeants, le scepticisme vis-à-vis de la mondialisation. Et si les conséquences économiques du Covid font une percée dans les préoccupations, la crainte de la délinquance est également en plein boom, Thomas Larabi.
Oui, quand on leur demande de ne pas tenir compte du coronavirus, la moitié des personnes sondées placent la délinquance dans ses 3 plus grands motifs d'inquiétude. C'est 18 points de plus que l'an dernier. Pourtant, la délinquance a bien tendance à stagner, voire à baisser ces dernières années, selon l'INSEE et selon Christian Moina, chercheur au CNRS et spécialiste des questions de sécurité et de justice. Pour lui, l'épidémie explique en grande partie cette hausse de l'inquiétude.
Le Covid a beaucoup perturbé les relations sociales et on sait bien que tout ça joue sur le sentiment d'insécurité, notamment chez les personnes âgées. Le fait d'être cloîtré chez soi, et qui est le cas pendant le confinement, mais qui est encore le cas maintenant, les gens qui ont peur de sortir, qui ont peur d'être contaminés, chez soi avec la télé ou la radio qui envoie des messages négatifs toute la journée, ça fait augmenter la peur de l'extérieur.
Un prisme médiatique donc, mais aussi un prisme politique selon le chercheur.
Toute la rhétorique sur l'ensauvagement, toutes ces prophéties de mauvais augure qui sont utilisées pour dire « Regardez, vous avez peur, regardez, je suis celui qui va permettre qu'il n'y ait plus de délinquance ». On est dans une période d'extrême doute parce qu'il y a cette crise économique, il y a une crise des valeurs, il y a les gilets jaunes, il y a eu les attentats, etc. Et tout ça vient s'additionner finalement pour faire penser qu'on est dans une période en tout cas de grands changements et donc d'insécurité générale parce qu'on perd ses repères. Quoi.
Une crainte plus globale qui semble se confirmer à la lecture de ce baromètre du journal Le Monde. 2/3 des personnes interrogées pensent que la France doit se protéger davantage du monde d'aujourd'hui. Et enfin 55% se disent favorables au retour de la peine de mort. C'est 11 points de plus que l'an dernier.
Nous continuons de suivre le procès des attentats de janvier 2015. La cour d'assises s'est penchée aujourd'hui sur la 12e et dernière victime des frères Kouachi, le policier Ahmed Merabet. Les terroristes l'ont tué dans leur fuite juste après le massacre de Charlie Hebdo. Compte rendu d'audience de Florence Turm.
Deux d'entre eux n'ont pas voulu venir, mais les femmes et les hommes qui défilent à la barre disent tous le choc énorme subi et le retentissement psychologique toujours présent. D'abord la mort de leur collègue, Ahmed Merabet, froidement abattu par les frères Kouachi, apprécié de tous et qui avait réussi le concours d'officier de police judiciaire, il aurait dû intégrer son nouveau service 5 jours plus tard. Je lui ai dit « accroche-toi » et je ne l'ai jamais revu, témoigne Géraldine, 37 ans, grande jeune femme blonde aux cheveux courts. Elle arrive avec ses collègues en vélo pour des coups de feu sans savoir de quoi il s'agissait et tout d'un coup deux hommes en noir, cagoulés, armés, qui tirent sur nous. Et ça tirait, répète-t-elle. Je suis entrée dans la police en 2004, je suis une femme de terrain, j'adore l'action. Aujourd'hui, je ne peux plus porter la tenue. Elle a fini par rejoindre sa famille en province et un service de communication de l'état-major. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, poursuit un autre fonctionnaire de la BAC, policier aguerri, qui triture à la barre un mouchoir en papier dans sa main droite. J'ai vécu énormément de choses, du sang, des crimes, j'en ai vu, mais là, sa phrase reste en suspens. Le surlendemain, je m'apprêtais à repartir au commissariat et l'on entend aux infos prise d'otage à l'hypercachère. On habite à 150 mètres. Il craint pour les écoles, les collèges, récupère ses deux fils en urgence, les ramène chez eux. L'assaut est donné, chez nous les murs tremblent, les deux garçons se cachent sous la table. Le petit est toujours suivi en psychiatrie, le plus grand refuse toute aide médicale. Lui aussi a quitté la région parisienne pour un autre service. « Mon combat, c'est le sourire de mes enfants », conclut-il. « C'est aussi comme ça que je me suis reconstruit. »
Florence Turme, dont les chroniques judiciaires sont mises en ligne sur franceculture.fr, avec Éric Audra à la technique. C'était une réunion virtuelle et en format réduit à cause de la pandémie de Covid-19. Elle a mis le président chinois Xi Jinping face aux Européens, Charles Michel, chef du Conseil, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et Angela Merkel, l'Allemagne assurant actuellement la présidence de l'Union Européenne. On n'attendait pas d'accord lors de ce sommet sur les investissements, mais le dialogue a été constructif selon les Européens et ils assurent ne pas avoir éludé la question des droits de l'homme, Angélique Boin.
Oui, un dialogue qualifié de franc et ouvert par Angela Merkel qui a salué lors du point de presse commun avec les dirigeants européens quelques avancées. Alors la Chine reconnaît désormais une centaine d'appellations géographiques protégées de l'Union. Cela avait déjà été négocié, c'est désormais signé. Les négociations ont également avancé sur les transferts forcés de technologies ou encore les subventions accordées par la Chine à ses entreprises. Mais il y a encore du chemin, a insisté la chancelière, sur la réciprocité, par exemple dans l'accès au marché. C'est un point majeur de l'accord espéré par l'Union. La Chine est aujourd'hui un pays de haute technologie, un concurrent. Il est légitime de réclamer des conditions d'accès identiques à celles que l'Europe lui octroie, a expliqué Angela Merkel en récusant le fait que l'on ait été trop généreux dans le passé. Quand nous avions ouvert nos marchés, dit-elle, la Chine était en voie de développement. Les négociations commerciales vont donc se poursuivre. On a aussi échangé aujourd'hui sur le climat, la pandémie et la relance. Et bien sûr, les droits de l'homme, c'est ce qu'a indiqué le président du Conseil, Charles Michel.
Nous ne baissons pas les yeux en considérant que la question des droits de l'homme doit faire l'objet d'une attention très méticuleuse. Et c'est pour cela qu'un des points importants aujourd'hui, par exemple, c'est la proposition qui a été faite de mener des visites dans les provinces qui font l'objet de beaucoup de contestations. C'est pour ça que nous avons eu l'occasion de donner encore une fois nos arguments et notre opinion. Il n'y a pas de naïveté chez nous.
Les Chinois doivent nous convaincre de la nécessité de signer cet accord voulu avant la fin de l'année, a conclu avec fermeté la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Alexei Navalny peut maintenant se lever de son lit. L'opposant russe, empoisonné au Novitchok, est toujours hospitalisé à Berlin. Selon son entourage, il devrait bientôt pouvoir se passer complètement de ventilation artificielle. Deux laboratoires, un Français et un Suédois, ont confirmé la cause de son état, l'emploi d'un agent neurotoxique. Une confirmation qui a offert l'occasion à Emmanuel Macron de demander directement des comptes à Vladimir Poutine et de dénoncer une tentative d'assassinat, Bertrand Galichet.
Jusqu'à présent, seul le Quai d'Orsay s'était exprimé sur cette affaire en demandant des explications à la Russie. L'entretien de ce matin entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine fait suite aux examens complémentaires effectués en France et en Suède sur le cas Navalny. Il s'agissait de vérifier les analyses effectuées par le laboratoire allemand qui avait déjà conclu à l'empoisonnement de l'opposant. Les résultats communiqués par les experts français et suédois rendus publics ce matin confirment que Alexei Navalny a bien été empoisonné au Novitchok, d'où la réaction d'Emmanuel Macron qui réclame à Vladimir Poutine une clarification de la Russie dans le cadre d'une enquête crédible et transparente. L'Allemagne, au même moment, a réitéré une demande identique, avec en guise de réponse toujours le même déni du président russe qui dénonce des accusations non étayées et ne reposant sur rien. Moscou se contente de réclamer des échantillons biologiques qui ont permis de détecter le Novitchok. La réprobation internationale contre la Russie inclut désormais l'Union européenne, les États-Unis et le G7. La France, elle, assume de mettre en péril le rapprochement avec le Kremlin qu'Emmanuel Macron a tenté de mettre en place dès le début de son quinquennat.
L'opposant rwandais Paul Rusesabagina est inculpé pour meurtre, terrorisme et financement de rébellion par un tribunal de Kigali. Alors qu'il vivait en exil depuis près de 25 ans, le fondateur du mouvement rwandais pour le changement démocratique s'est retrouvé en quelques jours à peine face à la justice de son pays. C'est une célèbre figure de l'opposition à Paul Kagame et selon l'ONG Human Rights Watch, il a été kidnappé et ramené de force dans son pays d'origine, accusation rejetée par le chef de l'État rwandais, Olivier Poujade.
Pas d'enlèvement, aucun acte répréhensible selon le président rwandais Paul Kagame qui sous-entend que son adversaire politique s'est lui-même retrouvé pris dans le piège qu'il essayait de tendre. L'avocat de Paul Rusesabagina évoque de son côté un kidnapping. Son client aurait bien été conduit de force le 31 août dernier vers un avion privé sur le tarmac de l'aéroport de Dubaï, endormi puis réveillé à son arrivée à Kigali. C'est également la version donnée par la fille de Paul Rusesabagina à la RTBF. Son père, réfugié politique en Belgique, n'aurait jamais envisagé de revenir à Kigali.
Il était censé voyager à Dubaï pour quelques jours et retourner aux États-Unis le 1er septembre. Le gouvernement de Dubaï dit qu'il n'avait rien à voir avec cette arrestation. Et comme je sais que mon père avait aucune intention d'aller au Rwanda, ça faisait plusieurs années que le président rwandais lui veut du mal, qu'il y a eu plusieurs tentatives de meurtre, ils nous ont cambriolés dans notre maison ici en Belgique. Ils le poursuivent depuis plusieurs années parce qu'ils parlent sur l'injustice qui se passe actuellement au Rwanda. Et donc, je pense qu'ils l'ont enlevé par force et ramené au Rwanda.
12 charges d'accusation ont été retenues contre celui qui, en 2004, a inspiré le film Hôtel Rwanda, son histoire. L'histoire de Paul Rusesabagina, directeur de l'hôtel des Mille Collines, Hutu, marié à une Tutsi, qui a pris la décision durant le génocide de dissimuler dans son établissement 1200 personnes pour qu'elles échappent à la mort. Symbole d'un Rwanda modéré et de l'opposition à la politique de Paul Kagame, il est aujourd'hui accusé de meurtre, de terrorisme et de financement de rébellion.
Record de température aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Demain, le temps restera beau et chaud. Il pourra y avoir de l'orage l'après-midi sur le relief pyrénéen. Les températures iront de 12 à 23 degrés le matin, de 22 à 36 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.